Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Aligre FM, Lusitania, 4 mai 2024. Je suis Anna et je suis bien accompagnée par une équipe technique très jeune composée de Armand, Thomas, Alexandre, Dariano, Célian qui vont nous accompagner pour cette heure-ci. Le Portugal, Paris, le monde ont célébré le 25 avril, orchestré par des militaires et qui a enterré les 48 ans de la dictature du Estado Novo. Ce nouveau chapitre de la République portugaise, celui de la démocratie, est marqué par l'éclusion des voix populaires, ses revendications, ses rêves et ses douleurs. Le couvercle de tant d'années de silence a été levé, illuminant les caméras de nombreux cinéastes. Notre invité, Rui Simões, est l'un de ces cinéastes, auteur de deux des documentaires incontournables de cette époque. Deus Patria Autoridade, Dieu, Patrie, Autorité, de 1976, Bon Pauvre Portugais, 1981, Bon Peuple Portugais. Autre que ces deux films, Rui a réalisé bien d'autres documentaires, notamment un qui touche à la thématique de la transmission, intitulé « Au pays d'Alice », un documentaire où le père Rui Simões présente à sa fille Alice le Portugal d'aujourd'hui, et aussi, plus récemment en 2023, sa première fiction, A Primeira Obra, le premier œuvre après plus de 50 ans de carrière. Je ne m'attarderai plus sur des mérites et richesses de la carrière de Rui et je termine cette petite introduction en disant que cette année de 2024, Rui a reçu le prix Sofia pour sa carrière, une prestigieuse récompense de l'Académie portugaise du cinéma pour l'ensemble de sa carrière et contribution au cinéma portugais. Rui est de passage à Paris, où son film « Patria, Deus, Autoridade » vient d'être projeté dans une salle parisienne. Et c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons ici aujourd'hui chez Aligre FM pour parler de son œuvre, notamment de ses expériences post-révolutionnaires. Bonjour Rui, merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Nous allons consacrer cette émission à votre travail, notamment à votre expérience cinématographique et personnelle autour de la période post-révolutionnaire de 1974. Mais pour commencer ce voyage dans vos expériences, une première question s'impose. Comment avez-vous vécu le 25 avril de 1974?
D'une façon très spéciale, c'est que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. J'étais à Bruxelles depuis 9 ans, j'étais réfugié de l'ONU, les Nations Unies m'avaient concédé le droit d'asile et j'étais distant de Portugal. Je ne croyais pas du tout, je ne croyais plus que la dictature tomberait un jour. Et j'étais chez moi, j'étais au lit, mais je regardais la télévision et je regardais des images que je n'ai pas reconnues. Des militaires, des soldats, des chars. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la Grèce. À l'époque, il y avait des problèmes avec les colonels en Grèce. Donc, on était très, très sensible à tout ce qui se passait en Grèce. On ne pensait pas du tout qu'au Portugal, il pourrait arriver un coup d'État militaire. Mais en regardant les fenêtres, je me suis rendu compte que ce n'était pas la Grèce. Ce n'était pas possible. Parce que ces fenêtres n'existaient pas. Elles existaient qu'au Portugal. Parce que c'est très spécial, les fenêtres portugaises. Et avec ces pierres à marbre. J'ai regardé plus attentivement et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était Lisbonne. Alors, j'avais pas de son. Mm-hmm. J'ai remonté le son. Et puis, je me suis dit, bon, il se passe quelque chose de très sérieux. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. De téléphone, oui, il y avait, mais moi, je n'avais pas de téléphone. Je n'avais pas besoin. Donc, c'est seulement plus tard que j'ai été contacté par un ami qui est à la maison, qui vient chez moi, et qui me dit, bah oui, il y a eu un coup d'État à Lisbonne, le fascisme est tombé. Bon. Et alors, là, bon, j'ai compris. Et très vite, on s'est organisé un petit groupe de 4 personnes. On a, quelques jours après, donc on a réfléchi, on n'était pas privilégié, on n'était pas riche, on n'avait pas d'argent. C'était difficile à prendre une décision et venir au Portugal, mais on a réussi à avoir de l'argent pour l'essence. Et il y avait une copine qui avait un 4L, un Renault, et alors on est venu. On est venu 4 personnes, 3, un déserteur, 2 frères et la femme de déserteur. Et on est venu à Lisbonne pour comprendre ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, on est resté quelques jours, on est revenu de nouveau à Bruxelles pour organiser un départ déjà beaucoup plus grand. Bon, j'allais quitter définitivement ma maison, tout, donc j'ai tout lâché. Au bout d'une semaine, je suis venu au Portugal jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup pour ce récit. Moi, j'étais pas née, donc ça me rend toujours heureuse de savoir comment les gens ont vécu ce jour. C'est très différent et très intense à la fois. Avant de continuer à discuter, notamment sur le documentaire qui a été présenté récemment à Paris, je nous propose d'écouter à nos auditeurs également une chanson de José Mário Branco qui s'appelle Inquietação et que je pense qui reflète bien les enjeux et les désirs du peuple à l'époque. Avec vous, Inquietação de José Mário Branco.
Bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Que eu trazia, quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvelinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
La La voix de José Mário Branco avec la chanson Inquiétação. Nous sommes ici chez Aligre FM, vous écoutez Lusitania et notre invité d'aujourd'hui c'est Rui Simões, auteur du documentaire Deus, Patria, Autoridade, un documentaire qui a fait histoire et qui raconte à travers des archives et un travail de montage très affirmé, un travail de déconstruction de trois piliers essentiels de la dictature. Notamment, ces trois piliers, c'est que nous ne discutons pas, nous ne questionnons pas Dieu, la patrie, l'autorité. Rui, comment avez-vous l'idée de faire ce film ?
D'abord parce que Salazar m'a inspiré cette première idée de construire le film en trois modules, si on veut. La religion, la répression et la fausse idée de patrie. Surtout quand on avait une guerre coloniale et qu'on ne respectait pas les patries des peuples qu'on combattait. Donc il y avait là une espèce de fausse idée de patrie, un appel à la patrie qui n'était pas juste. Donc j'ai pensé tout de suite à travailler ces trois dogmes, ces trois thèmes, et de façon à pouvoir les rendre visibles d'une autre façon, à ma façon, à la façon que je considérais que c'était la juste, et qui pourrait dénoncer l'autorité, par exemple, l'a dénoncé très fort, la répression que la police exerçait sur les Portugais et sur les peuples des colonies. Cette idée de patrie aussi, c'était possible, pas justement, il y avait cette fausse idée des colonies qui étaient le Portugal, tout ça, et puis la religion, que c'est un pilier très fort du Portugal et que Salazar a utilisé jusqu'à la fin, a exploité très fort cette idée de religion et d'aliénation de la population pour pouvoir continuer à avoir ce pouvoir. Mais c'est pas seulement ça l'idée du film. L'idée du film, c'est aussi de faire un film en sorte pour les Portugais qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Donc j'avais 9 ans d'exil, quand je suis rentré, j'ai compris que les jeunes de mon âge, ils n'étaient pas encore, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui était en train de se passer. Et alors j'ai dû faire un film pour qu'ils puissent comprendre la réalité. Donc j'ai fait le film pour moi-même, 9 ans avant. Je me suis dit, il y a 9 ans auparavant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Si j'ai fait un film pour moi-même, ils vont comprendre ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça, la construction des... Ce sont des idées qui se croisent et qui, à la fin, ont réussi à faire cette édition avec les archives, mais aussi avec beaucoup d'images que nous-mêmes, on a filmées.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et cette idée de faire un film pour vous-même, pour vous expliquer un peu ce qui se passait, il y a, je pense, un parti pris aussi. Enfin, vous avez choisi un peu l'angle
pour raconter cette histoire. Parce que j'avais compris que les jeunes de mon âge, ils n'avaient pas encore compris ce qui est en train de se passer. Donc c'est moi-même, je n'avais pas compris 10 ans avant. Et quand je reviens, je vois que mes amis, les gens de ma génération n'ont pas compris. Donc ça suffit de faire un film pour la personne que j'étais avant et j'allais toucher la réalité de 1974. Donc c'est pour ça que le succès du film est très grand, parce que le public a immédiatement compris ce que j'étais en train de dire. Donc, je n'ai pas voulu compliquer. Au contraire, j'ai voulu simplifier. Pour ça, le film est très simple. Moi-même, aujourd'hui, je ne ferai pas ce film. C'est un film que j'ai fait. J'avais 30 ans, donc j'avais une illusion aussi sur la Révolution. Je pensais que ça pourrait encore contribuer avec quelque chose, donc avec le cinéma, pour pouvoir faire les gens comprendre la situation et continuer ce processus qui était difficile, qui n'était pas facile. Donc, voilà, ça a marché, ça a très bien marché.
Très bien marché, parce que j'ai lu que plusieurs milliers de personnes ont vu le film à l'époque.
Ah oui, oui, il est sorti partout, partout, partout. Il était dans une salle à Lisbonne pendant 3 mois. Et puis, il est passé partout dans le pays, dans les murs des églises, des façades des églises, dans les usines, dans les bateaux de guerre. Beaucoup de tout le pays a vu ce film dans quelques salles, très peu de salles, à Lisbonne et Porto surtout, mais c'était hors contexte cinéma. Donc c'était dans les usines, dans les petits villages.
Des projections.
Il y avait beaucoup de copies en 16 mm. Il y avait beaucoup d'équipes qui allaient avec des projecteurs et qui projetaient, et des ciné-clubs et des commissions de travailleurs. Enfin, c'était un film qui a rentré bien dans la dynamique de la révolution à l'époque.
Et vous vous souvenez des réactions que les gens avaient à l'époque?
Ah oui, je me souviens, pour moi, c'était très sympathique, c'était très bien. Je me souviens, parce que je viens de le reconstituer pour mon premier film de fiction, un jour, j'étais invité à venir sur une base militaire, la marine, face à Lisbonne, en fait. Et alors, c'était quoi? C'était une projection, moi je ne savais pas, et c'était une projection du film dans un bateau de guerre. Et alors j'arrive, et tous ces marins qui sont assis sur les canons et tout ça, ils projettent le film, ils ont été voir en plein air. C'était très beau, je voyais Lisbonne au loin, et le film, la projection. Donc c'est des moments très, 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 très forts, très forts, très forts. Ça m'a marqué beaucoup, toutes ces projections. Donc j'étais un cinéaste très heureux avec ce film.
J'imagine que le retour émotionnel a été très intense. Et justement, le côté émotionnel des gens, comment vous vous souvenez de ça? L'émotion que les gens...
Les gens étaient très curieux. Et donc, au fond, ils étaient... C'était comme, comme un enfant qui va à l'école, il reste émerveillé avec le professeur. Il dit, au fond, c'est ça. Parce que le film est très didactique, en effet. Hein. Et donc, il explique des choses que les gens ne comprenaient pas, ne savaient pas très bien. Ils sont merveillés de voir ces images, la construction de ces séquences sur la guerre coloniale, par exemple, comprendre qu'il y avait la guerre en Guinée-Bissau et comment ça se passait, ou la lutte en Angola, en Mozambique, les mouvements de libération, aussi la construction de la société portugaise, comment le capital fonctionnait, le capitalisme en général, comment ça fonctionne, les plus-values, les classes sociales. Donc tout ça, c'était quelque chose de nouveau. C'était qu'aujourd'hui, bon, peut-être n'aurait pas de sens d'être fait comme ça. Mais à l'époque, ça fonctionnait bien et c'est ce que je sentais et ça marchait.
Et ce film, Deus, Patria, Autoridade, il a le rôle du montage et du montage des archives, il est très important.
Oui.
Aujourd'hui, le cinéma, les vidéos, l'édition a beaucoup changé. Mais à l'époque, j'imagine que le travail a été très, très significatif et important. Comment ça s'est passé, la fabrication?
Parce qu'en pellicule, c'est différent. En pellicule, il faut être sûr de ce qu'on veut. Il faut être sûr du moment où on coupe. Couper un film en pellicule, ça veut dire que si on le coupe, c'est comme on coupe avec des ciseaux. On coupe et c'est fini. On ne peut plus rien faire. On a coupé. C'est évident qu'on peut toujours mettre de la de tape et revenir en arrière, mais c'est difficile. Donc, c'était quelque chose de très précis, le montage, plus que maintenant. Maintenant, avec le digital, nous, on peut se permettre de choisir un million de possibilités différentes, et c'est très bien aussi, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Le cinéma fait en pellicule est d'une rigueur énorme. Et puis, il faut dire aussi que moi, j'avais quelqu'un avec moi à travailler, c'est Dominique Roland, qui vit en France d'ailleurs. Elle est belge, elle vit dans le sud de la France, à Hyères. Et une monteuse extraordinaire. Elle a monté mes deux films, Deus, Patria, Autoridade, et Mon peuple portugais. Elle était ma collègue à l'école. Au fond, ce film est fait avec des collègues, des amis. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, c'est José Reynès, qui était un cameraman français, mais qui a étudié avec moi en Belgique, à l'école. Et c'est un des caméramans qui est venu m'appuyer au Portugal. Il fait des images avec moi pour qu'on puisse faire ce film. Parce que ce film, au début, il n'était pas facile de commencer la production, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Personne ne me connaissait, donc ça n'a pas été facile. Mais
ça a pris combien de temps pour fabriquer le film ?
Ce film, ça a été 2 ans. Et puis l'autre, 4 ans. Donc c'est 6 ans pour 2 films. Voilà, c'est ça. Il est sorti en 76. Et j'ai commencé en 1974.
Et aujourd'hui, presque 50 ans après, quel est votre sentiment quand vous regardez le film ?
Ah non, je suis très content. J'aime beaucoup ce film. Parce que les gens l'aiment beaucoup aussi. Ils continuent à aimer beaucoup. Ces films passent très bien. En plus, en ce moment, ils ont des copies nouvelles, une digitalisation incroyable, une qualité incroyable, un noir et blanc très beau. Alors c'est une surprise de voir ces films en salle avec un très bon son aussi. Et un public toujours surpris, même ceux qui ont vu à l'époque. Donc il y a des gens plus âgés avec mon âge qui ont vu avant et qui maintenant le regardent de nouveau. Ils sont toujours surpris par la qualité de l'image, de le son et de l'édition, de montage aussi, évidemment. Mais ça marche très bien. Chaque fois que je montre ce film, il y a un débat après. Et quand c'est le soir, c'est rare que j'arrive à mon lit avant 2h du matin, parce qu'on parle, on parle, on parle énormément. Après, ces projections, c'est vraiment des moments de... Unique.
Ça fait travailler,
oui,
les esprits.
Oui.
Je nous propose à tous une autre pause musicale, cette fois-ci avec un autre grand chanteur portugais, Sérgio Godinho, avec la chanson Liberdade, que justement aussi, ça parle des enjeux et des désirs vécus à l'époque et qui sont toujours actuels. Liberdade de Sérgio Godinho.
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Viemos com o peso do passado e do cimento. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente.
Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quero a vida cheia quem teve a vida parada. Só quero a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade, sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et vous êtes sur Lusitania aujourd'hui avec Rui Simões, cinéaste portugais connu par plusieurs documentaires. Nous venons de parler de Deus, Pátria, Autoridade et quelques années plus tard, vous venez de l'énoncer il y a quelques instants, quatre ans plus tard, vous avez sorti le documentaire Le Bon Peuple Portugais, Bon Pauvre Portugais. Pareil, un documentaire construit avec des archives, mais pour moi, dans celui-là, j'ai senti que le poids du montage, l'intention du montage, elle sort davantage dans ce documentaire. Il est plus affirmé, l'image, paroles, musique sont essentielles pour comprendre le tout. Et pareillement, j'aimerais bien vous demander quelle était votre idée, votre intention derrière ce documentaire et en quoi elle est différente du film précédent, Deus, Pátria, Autoridade.
Oui, c'est une idée complètement différente parce que le premier film, Deus, Pátria, Autoridade, voulait vraiment encore essayer d'aligner avec tous ceux qui étaient en train de lutter, de prolonger ce processus révolutionnaire, comme on disait à l'époque. Donc le film, il rentrait bien encore dans ce temps. Même deux ans après, 1974, les choses ne sont pas arrêtées tout de suite, même pas dans le 25 novembre.
Bien sûr, il y a toute une période de convulsion sociale.
Bien sûr. Ça a duré, je dis même que ça dure encore dans certains domaines. Par exemple, sur la liberté pour nous, je crois que quelque chose de très fort qu'on a gagné au 25 avril, qu'on a du mal à laisser tomber. On peut laisser tomber beaucoup de choses, mais la liberté, ce mot incroyable, cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est quelque chose de très fort pour le Portugal et pour les Portugais, même si les choses aujourd'hui ont changé et qu'il y a le populisme qui avance et tout ça. Mais ça, c'est autre chose encore, c'est un autre phénomène. Alors, revenons aux deux films. Moi, j'ai tourné, je tournais tous les jours. Je ne savais pas si c'était pour un film ou pour un autre, je tournais. Tout ce qui arrivait, tout ce qui se passait dans les rues, dans les usines, les luttes, tout ça, moi je filmais tout ça. Et puis j'organisais les films en fonction justement des idées. Non, la première idée, c'était celle-là que j'expliquais. Là, ici, c'est différent. Ici, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu montrer qu'il y avait une idée dominante chez les Portugais. Et cette idée dominante était que c'est une idée de révolution, disons. On se disait, on est en train de vivre une révolution, on va la faire, on va continuer. Donc cette idée existait. Et ce que j'ai voulu, c'est montrer la naissance de cette idée, la croissance jusqu'à le plus haut possible, et puis la décadence. Donc le film, c'est ça. Il montre ces trois moments. Et à partir de ça, je réussis à alimenter l'idée avec les images que je fais exprès pour ça, et des archives aussi, surtout des images de pouvoir que je n'avais pas. Donc j'avais besoin des images de pouvoir, donc je devrais les prendre dans le pouvoir, à la télévision surtout, qui les avait. Mais tout le reste, c'est notre équipe qui a filmé. Et alors, on a construit ce film d'une façon complètement différente, avec la même équipe. Mais ici, par exemple, on a ajouté José Mário Branco. Donc, José Mário Branco, c'est ma voix. Donc, je cherchais ma voix pour dire ce que je pensais, pour lire un texte, pour dire un texte écrit par Teresa Sá, et dire et lire et le changer si c'est nécessaire. Et José Mário l'a fait justement. Non seulement il a dit ce que je pensais, mais quand il trouvait qu'il devait dire quelque chose de lui-même, il mettait aussi dans le texte, et moi j'acceptais. Et donc c'est cette richesse, cette voix extraordinaire qu'il avait, et cette façon de dire unique, ça a contribué très fort aussi pour le film. Et puis le montage, encore une fois, de Dominique Rolland est très fort. Mais la bande sonore de Luis Saraiva, c'est une bande sonore très travaillée au niveau musical, de sonoplastie, tous les sons qui rentrent. Donc c'est un très grand maître du son, Luis Martins. D'ailleurs, il a aussi étudié à Paris, il a vécu son exil à Paris. On est tous un peu comme ça, des enfants.
Et d'ailleurs, on sent un peu, je reviens au montage, mais oui, l'influence du cinéma, des tendances du cinéma en Europe.
Oui.
Godard, quand il parle du montage, de raconter oui, l'histoire d'une façon différente. Ça se voit, comme je disais tout à l'heure, il y a des scènes dans ce film que pour moi sont très fortes. Quand, par exemple, quand on entend le pouvoir religieux, le son du pouvoir religieux quand on parlait, et l'image nous montre un troupeau. Et cela, voilà, ça rejoint oui, l'idée que tout
se complète comme ça. On a étudié en Europe, surtout en France et Belgique. Donc on est influencé par le cinéma qui était produit à l'époque. Nos professeurs, c'était justement les gens qu'on aimait. On n'a pas eu Godard, par exemple, mais on a voulu avoir Godard. Et on l'a contacté et tout. Ça n'était pas possible parce que l'école ne comprenait pas bien ça. Mais pour ça, on a lutté pour ça. On a lutté pour avoir les profs qu'on voulait. On a réussi à avoir quelques-uns, d'autres pas. Mais c'est vrai, on est très influencé par le cinéma qui était produit, fait à l'époque. Donc, j'ai mal vivé à Paris. Serge Gooding, une partie à Paris, et au Canada, au Québec. Donc, toute l'équipe.
José Mário Branco à Paris aussi.
Oui, José Mário Branco à Paris. Moi à Bruxelles. Louise Saraiva de son à Paris aussi. Donc il y a des influences, c'est évident. Et l'équipe qui m'accompagne sont des collègues de mon école à Bruxelles. Donc il y a ce côté. Évidemment, ça influence les films, c'est évident. Mais voilà, Mon Peuple, c'est le film qui a. Au fond, c'est un fresque sur la Révolution.
Mm-hmm.
C'est l'image de la Révolution. Ce n'est pas un film didactique, c'est un film plutôt plus artistique. C'est du cinéma. Et c'est ça que je voulais faire. Parce que je ne voulais pas faire un film militant. J'avais fait déjà. Celui-ci serait autre chose. C'est un film pour rester, pour faire l'histoire. Et il est là, bon, 50 ans après.
Et cette idée de fresque, elle est très intéressante parce qu'il y a un côté ethnographique dans Bon Peuple portugais, puisque vous filmez la réalité telle qu'elle vous apparaît.
Parce que je trouve que ça, c'est important de croiser la réalité politique avec la culture populaire et des peuples. Parce que pourquoi on prend une décision comme ça ou comme ça, c'est parce qu'on est aussi influencé par notre culture.
Bien sûr. Et justement, je pense que ça illustre bien une idée que vous avez aussi exprimée à l'instant. C'est que le changement que la Révolution a apporté, il est lent, quelque part. Oui. Donc, il y a tout ce désir qui sort dans les rues, dans les pancartes de liberté, oui, émancipation, etc. Mais la fresque du pays nous montre encore des habitudes très rurales, très en arrière, les problèmes de santé, les écoles, l'ignorance, le manque d'instruction. Et donc le film, je pense que ça nous met en évidence.
Le film parle de ça et montre ça. On vit des périodes différentes. On dirait qu'on vit dans le XXe siècle, on vit au Moyen-Âge dans certains endroits, au 19e dans d'autres. Enfin, il y a tout ça se croise dans le même pays et c'est ça qui fait aussi qu'il y a des différences et des motivations différentes pour faire les choses. Et parfois, c'est difficile d'évoluer avec tout ça.
Aujourd'hui, 50 ans après, on est tous d'accord que le Portugal a beaucoup changé. Si on devrait faire un peu la fresque des gens qui habitent en ce moment, ça ne sera pas la même chose. Si vous devriez faire un exercice semblable, de faire la fresque à la société portugaise, quelles images, je ne dirais pas toutes, mais quelles images les plus marquantes choisirez-vous ?
Comme ça, je ne sais pas si je suis capable de répondre comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que je viens de terminer un long métrage de fiction, ma première fiction, la première œuvre qu'on a parlé tout à l'heure. Et ce film, c'est une réflexion sur le moment qu'on vit actuellement, mais il est croisé par des images de bon peuple. Donc la révolution d'avril, parce que c'est une histoire, c'est un Lousot descendant, donc qui vient de la Sorbonne, il est étudiant en cinéma, il vient faire un doctorat au Portugal sur ce film. Donc il me demande d'étudier ce film, il me communique qu'il aimerait bien le faire, il vient en Lisbonne, il vient à mon studio, il travaille, il voit les films, les documents, les papiers, les notes, et ça c'est une histoire réelle. Et alors, je vais chercher cette petite histoire pour construire ce nouveau film. Mais comme le réalisateur qui vient voir, c'est moi, même si c'est une fiction, ce n'est pas moi, c'est un acteur qui fait de moi. Les images de Bon Peuple, elles sont là. Donc elles se croisent dans le film. Et d'une certaine façon, celles que j'ai choisies sont celles que j'ai trouvées que c'était important de mettre dans le montage du film. Ce ne sont pas les plus importantes, ce sont celles qui m'arrangeaient pour montrer une continuité dans des problèmes, par exemple. Que les salaires continuent des situations de ce genre-là. Donc, le côté religieux, mais maintenant différent, avec les évangélistes, tout ça, toute cette nouvelle situation de l'Église qui n'est plus la catholique dans la romaine, c'est autre chose déjà. Il y a tout, même le populisme qui s'installe aujourd'hui, il est présent dans certains discours de Spinola, par exemple. Donc, je vais chercher quelques images de Bon Peuple pour les faire entrer dans la première œuvre. Et en même temps, je montre comment je suis arrivé au cinéma. À l'école, je fais une reconstitution de mon école à Bruxelles, comment j'ai commencé, comment j'ai rentré dans cette école, qu'est-ce que j'ai fait là-dedans. Donc, il y a tout ça entre le présent du Portugal en ce moment, la crise de l'habitation, l'ambiance, enfin tous les problèmes qui se posent aujourd'hui au Portugal, ils sont très présents dans ce film, mais chaque fois avec un regard vers le passé, et le passé c'est justement les images de Bon Peuple.
Comme un miroir.
Oui, c'est une espèce de miroir, exactement. C'est une espèce de miroir. De miroir, comme dans les voitures, on a...
Rétroviseur.
Oui, un rétroviseur, c'est un peu ça, exactement.
Et aussi un rétroviseur aussi sur votre propre carrière, oui. Et votre histoire de vie.
C'est exactement. Aussi, D'ailleurs, le titre du film pourrait être le rétroviseur.
Merci beaucoup. On va continuer avec une autre musique. Avec un ton complètement différent. C'est lié aussi à cette idée de rétroviseur, mais au contraire, parce que je vais vous proposer une chanson qui est sortie cette année, de Bárbara Tinoco, qui est une jeune artiste portugaise, qui donne un côté très différent à une interprétation de ce qu'est La Liberté et Avril. Et cette chanson qui s'appelle A Madrugada que eu esperava, L'aube que je m'attendais, c'est une chanson qui fait partie d'un spectacle musical qui est sorti, qui est à présent à Lisbonne. Et c'est une jeune chanteuse et je pense que c'est intéressant aussi de partager comment les jeunes ont interprètent ce moment historique. Avec vous, Bárbara Tinoco.
Ouço na rua revolução, soldados de espingarda e cravo na mão. Ouço na rua liberdade, morta à ditadura na flor da idade. Mas não sangram as ruas da nossa cidade, nem soube um canhão. A renascer das cinzas eles estão, um pé depois do outro a bater no chão. 25 de abril de 74, morta à censura, viva a liberdade. Que a noite foi escura e estamos cansados deste plantão. A esmola é grande, o pobre desconfia. Não acaba a primavera por morrer uma andorinha. Não quer ser louco, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Não quer ser louco, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Esta é para a rua em manifestação. O povo é a voz da nação. Viva a democracia, as eleições livres. Viva o fim da guerra, os finais felizes. Viva o amor que beija as cicatrizes. É o fim da servidão. Viva a mulher e a igualdade. Viva o futuro que o povo é que sabe. O lápis azul já não pinta a verdade. Começa a revolução. A noite é boa conselheira, mas nasceu torto, tarde ou nunca se endireita. O que arde cura, o que aperta segura. Mas não há fome que não dê fartura. Até as rãs mordiam se tivessem dentes. Gato escaldado não tem medo para sempre. Até as rãs mordiam se tivessem dentes. Gato escaldado não tem medo para sempre. Esta é
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et vous venez d'écouter Bárbara Tinoco avec la chanson A Madrugada que eu esperava, une chanson qui est sortie le 25 avril 2024 et qui évoque la révolution des ouailliers, événement qui a inspiré les deux grands, plus connus documentaires de Rui Simon et de notre invité aujourd'hui. Rui, vous avez une longue carrière dans le cinéma documentaire. En 2021, il y a un documentaire qui, à mon avis, est très spécial, qui s'appelle « Au pays d'Alice »,« Nos pays d'Alice », où vous accompagnez votre fille Alice par le pays, par le Portugal, en lui montrant son Portugal contemporain. Pourquoi avez-vous fait ce documentaire avec elle et pour elle, il me semble ?
Bon, j'avais pensé faire ce documentaire quelques années avant. Elle était beaucoup plus petite, mais ces histoires de financement, ça a duré longtemps pour financer un film. Et pendant le temps qu'on attend, les enfants, ils grandissent.
Elle avait quel âge?
Elle avait peut-être 6 ans quand on a commencé, quand j'ai commencé à penser que je voulais faire ce voyage avec elle. C'était autre chose. C'est la même chose, mais à mes yeux, c'était autre chose. 6 ans, c'est un âge beaucoup plus naïf. Donc après, c'était déjà un peu plus difficile parce qu'elle résistait un peu plus à l'idée. Bon, elle a participé, c'est évident. Mais c'est différent. Mais ça a très bien marché. Alors l'idée, c'est justement une espèce de le montrer à elle, son pays, pour commencer. Parce qu'elle s'appelle Alice, et donc elle a aussi un pays. C'est pas le pays des merveilles, mais c'est son pays. Et je voulais qu'elle connaisse son pays. C'est le point de départ. Et aller avec elle, il montrait des endroits, des paysages, présenter des gens que j'aime, pour qu'elle puisse les connaître, et un jour, si jamais elle veut revenir rencontrer ces personnes, elle revient. Et elle a des repères dans le nord, dans le sud, dans l'est du pays. Donc, je crois que c'est important pour un enfant d'avoir des repères pour le futur, et aussi de donner une idée de dimension du pays. Je crois que Alice aujourd'hui a une dimension de son pays géographique, une dimension terrenne. C'est pas évidemment je ne sais pas. Imaginons qu'elle serait française, serait autre chose. Sa dimension serait beaucoup plus grande. Mais bon, elle a son histoire qui est assez grande aussi. L'histoire de Portugal est assez immense aussi pour étudier. Mais au niveau géographique, au niveau de terrain, je voulais qu'elle connaisse ça. Les habitudes, la culture populaire, les pierres, les monuments que le passé a construit, que nous a laissé. Enfin, toutes ces idées-là, pour moi, c'était important de le montrer. Et alors, on a organisé un tournage qui devait faire le pays en plusieurs voyages. Malheureusement, il y a eu un problème, c'est que Au milieu du film, mais trois quarts du film, il y a eu la pandémie. Il y a eu le problème que, d'un coup, on est tous fermés à la maison, on ne peut plus sortir, et le film n'est pas terminé. C'était un drame.
Et Alice a grandi.
Et Alice a grandi. Tous les jours, Alice est plus grande. Et le pays, il devient plus petit parce qu'il était réduit à un appartement. Donc, on ne peut pas sortir. Tout le monde est à la maison. L'école, c'est par l'Internet. Les professeurs donnent les matières par l'Internet. Elle ne peut pas sortir. On est trois personnes à la maison fermées pendant longtemps. Et moi, je devais trouver une solution parce que le film était, il manquait la moitié du pays. Le sud du pays, il manquait, et j'étais préoccupé avec ça. Comment je vais résoudre ce problème? Bon, je ne peux rien faire. Alors, j'ai décidé de filmer Alice à la maison. Donc, la fin du film, la partie importante du film, environ 30 minutes du film, c'est Alice à la maison. En classe, avec ses professeurs, avec le compétiteur, en jouant de la musique, parce qu'elle joue de la flûte, étudiant, enfin, la télévision, les communiqués constants de la télévision pour nous expliquer ce qui se passait, tout ça. Et là, je me suis dit, comment je vais monter ça, comment je vais construire ça. Et j'ai pensé à Nick Cave et à sa musique et sa poésie. Et on a écrit, on a demandé l'autorisation et qu'il ne fasse un prix spécial pour les droits. Il a été compréhensible et alors on a pu achever le film avec cette musique très belle. Et un poème très, très beau, très dur, mais très beau. Et comme ça, on a fermé le film et terminé le film. Avec quelques images qui sont ajoutées, parce qu'elles devraient, par exemple, on devrait aller à Porto Santo pour une plongée, voir les poissons, c'est très beau, tout ça avec une caméra. Et, bon, c'est une expérience qu'elle n'a pas pu faire, comme d'autres, elle n'a pas monté un ballon, c'était aussi prévu, bon, qu'il y a beaucoup d'expériences qu'elle n'a pas pu faire, mais celle-ci, on a réussi à parler avec le cameraman qui était à Porto Santo, un spécialiste en images, comment on dit
nature sauvage, animalière.
Et alors, il nous a envoyé ces images, et alors on a pu fermer le film avec ces images, ce sont très belles images. Et voilà, c'est un film accidenté, mais ce n'est pas à cause de ça que le film n'est pas intéressant. Au contraire, je crois que parfois c'est bon aussi d'avoir ces accidents.
La transmission, c'est aussi quelque chose qui n'est pas linéaire.
Voilà, exactement. Et trouver des solutions, parce qu'il faut trouver toujours des solutions.
Bien sûr. Et Alice, dans ce processus, comment elle l'a vécu?
Ah, elle a vécu très bien, parfois fatiguée, parce que c'est... cinéma, c'est dur. C'est un art très dur parce qu'il faut marcher beaucoup. C'est beaucoup d'heures debout. C'est quelque chose de très physique. Et les équipes elles travaillent énormément. Ce sont des horaires très longs parce que c'est cher. Donc, il faut travailler 10 heures par jour. Bon, c'est un système assez difficile pour un enfant. Mais elle... a bien géré, et surtout elle était fière aussi de ce qu'elle faisait, et elle savait que c'était son film, et encore aujourd'hui, elle est très fière d'avoir ce film, c'est son film réellement, et elle aime beaucoup aller voir les projections, et les publics, tout ça, donc je crois que c'est bien passé.
Très intéressant. Merci beaucoup, Rui. Je voulais terminer en revenant sur votre fiction, que c'est votre dernier film, qui, j'imagine, qui est encore en salle, peut-être au Portugal.
Oui.
Est-ce que vous avez des projets de projection en France?
Non, on n'a pas encore, mais je crois que peut-être ça va venir un de ces jours. Quelqu'un va me proposer. Au fond, ce que j'ai besoin, c'est d'un distributeur en France. Dès que j'ai un distributeur en France, je crois qu'on peut montrer ce film. Ce film, ça peut être intéressant pour le public général, mais pour la communauté portugaise qui est géante, qui est énorme, ça peut être très, très, très intéressant. Alors voilà, je ne sais pas si je peux ajouter beaucoup plus à ça. C'est un film à voir. C'est difficile d'expliquer des films. Les films, c'est pour regarder, c'est pour voir.
Bien sûr, en plus parce que le film se complète avec la sensation de qu'il voit. Donc je comprends bien. Mais exactement. En tout cas, je vous remercie pour cette approximation à la compréhension de votre cinéma. Je vous remercie d'être là chez Aligre FM.
Moi aussi, je remercie l'invitation. C'est
très gentil. Des documentaires que vous avez faits, oui, qui nous ont aidés à comprendre l'histoire. Et tenez-nous au courant de vos nouvelles.
Merci,
par rapport à votre prochain projet. Chers auditeurs, à l'aube du jeudi du 25 avril de 1974, des militaires se sont dirigés à Lisbonne avec l'intention de provoquer la chute de la dictature. La chanson « Grândola Vila Morena » passe à la radio et déclenche les manœuvres. Les chars ont encerclé les sièges de pouvoir. La rue se remplit d'adrénaline, de joie, des gens. Au bon moment, une jeune fleuriste offre des oeillets aux militaires et les armes ont fleuri. Un autre jeudi, 50 ans passés, les rues portugaises se sont remplies à nouveau pour exprimer le même désir de liberté. Et il y a eu des chansons à la radio. Vous êtes sur Aligre FM et je vous dis à très bientôt.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.
dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandura Vila Morena.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
grandola Vila Morena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade,
grandola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra numa azinheira que já não sabia a idade.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.